Interview.
2 jours. Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes en 107.5 FM ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Laureline Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Laureline Fontaine, vous êtes professeure du droit public à la Sorbonne Nouvelle, donc à Paris, et vous êtes ici pour nous présenter une conférence, entre autres, ou du moins nous annoncer cette conférence qui aura lieu samedi 6 novembre à 19h à la salle communautaire de l'espace social et culturel du Diwa. Et le titre de cette conférence sera « Droit et démocratie au temps du Covid-19 ». Cette idée de conférence vous est venue pour quelle occasion qu'est-ce qui vous a poussé à agir sur ce sujet ?
Bien, l'origine de la conférence, l'origine formelle, c'est une demande de Christian Lecorvic qui organise depuis des années des rencontres où il invite différents chercheurs ou universitaires à venir parler de leurs sujets très, très divers. Ça peut être de la philosophie, de l'histoire, la question des migrations, etc. Moi, j'étais déjà venue faire une conférence sur l'homme et son droit dans la société contemporaine. Et pour inaugurer le nouveau cycle cette année de conférences, donc il m'a demandé de revenir. Et j'ai proposé ce sujet, droit et démocratie au temps du Covid-19, parce qu'il m'avait semblé que les deux dernières années que nous venons de vivre ont beaucoup interrogé et la notion de droit et la notion de démocratie. Me semblait, j'ai écrit plusieurs petits papiers à ce sujet, et il m'a semblé intéressant de revenir, de faire une sorte de bilan de cette question, parce que, de toute évidence, ces notions-là de droit et de démocratie ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Ne sont pas non plus définis de la même façon par tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi bien les personnes, les gens que nous croisons au quotidien, que les différentes autorités qui sont amenées à intervenir, le gouvernement, le Parlement, les juges, les administrations, qui tous semblent avoir un regard sensiblement différent sur le droit, sur ce qu'est la démocratie, en cette période de Covid-19. Et l'une de mes interrogations, ce sera de savoir si véritablement on peut dire que l'articulation entre droit et démocratie a bougé depuis les débuts de la pandémie, ou si on peut dire que les choses sont restées en l'état, peut-être parce que c'est avant, en fait, qu'elles avaient bougé. Et je m'interrogerai sur l'hypothèse d'un monde d'après à partir du monde d'avant et du monde de maintenant. Voilà, c'est un peu l'idée de départ.
Il y a un nouveau facteur qui est arrivé par rapport à cette urgence sanitaire, c'est l'utilisation du numérique de manière à pouvoir discerner les populations à risque ou celles qui sont en soins ou guéries. Est-ce que ce constat par le numérique est un préambule à d'autres utilisations du numérique sur un point de vue de la population ou voire un contrôle ?
C'est évidemment la question qui fait peur. On l'agite souvent. Je dirais que, numérique ou non, il faut toujours garder à l'esprit que lorsque on met en avant des techniques nouvelles, des idées nouvelles, qu'on associe ça à l'exceptionnalité du moment, ça n'est jamais vraiment pour limiter l'usage de ces techniques au moment considéré. C'est-à-dire que, j'allais dire qu'une fois qu'on a mis le doigt dans la machine, je dirais presque, c'est presque trop tard. Et c'est assez intéressant de voir souvent que lorsque quelque chose de nouveau et qui peut faire peur à l'avenir, c'est-à-dire lorsque finalement on envisage presque des dystopies en disant voilà, quel usage pourrait-on faire, quel mauvais usage pourrait-on faire de telle ou telle technologie, on a peine souvent à y croire. Et tant qu'on n'y est pas, on pense que ça n'arrivera pas. Et ça, c'est, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait étonnant en général. Tant qu'on n'y est pas, on pense qu'on n'ira pas. Je pourrais donner un exemple de ce processus-là qui est proche, on va dire, des technologies du numérique avec l'usage des algorithmes dans la justice, par exemple, ou dans la prise de décision administrative ou politique. Un algorithme, ça sert à... Donc, on entre un maximum de données et on détermine, donc c'est toujours l'homme qui le fait, on détermine des critères à partir desquels les données vont produire un certain résultat. Donc, c'est évidemment en fonction de cette configuration que les algorithmes produisent certains résultats. Mais à l'arrivée, c'est la répétition presque à l'infini de l'usage de l'algorithme qui fait que on finit par sembler ne plus avoir de prise sur la décision finale qui est produite par l'algorithme. Et en matière de justice, nous posons cette question depuis plusieurs années, on voit beaucoup, d'un côté, les discours alarmistes, de l'autre, les discours plutôt rassurants, des discours optimistes, du type « il ne faut pas voir du mal partout ». Mais cette opposition fait que pendant ce temps, effectivement, l'usage des algorithmes se répand, devient de plus en plus une commodité, et une commodité telle que on finit par arrêter de penser aux questions que ça pose. Et finalement, nous voilà de plein pied dans un usage qui se généralise très tranquillement des algorithmes pour prendre des décisions de justice. Alors, je vais passer aussi sur le fait que, en général, les meilleurs arguments sont donnés. C'est exactement comme la question du numérique ou récemment, par exemple, de la géolocalisation. La géolocalisation, c'est effectivement un problème potentiel, mais qui a été validé, finalement, par notre Conseil constitutionnel français, et qui est justifié, par exemple, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons sanitaires. C'est justifié sur le moment, mais encore une fois que le pli est pris, eh bien, ça devient très, très difficile de reculer. Et j'ajouterais, pour parler de ce phénomène-là, que nous vivons sous l'empire de ce qu'on appelle les « breaking news », c'est-à-dire qu'une nouvelle en remplace une autre et on n'a pas le temps encore de s'apesantir sur une nouvelle, d'y réfléchir de manière approfondie, que déjà c'est remplacé par une autre. Un phénomène que l'on connaît partout, les libraires connaissent ce phénomène, qui à peine ont-ils présenté un livre sur le comptoir, que celui-ci doit être remplacé par un autre qui survient. Et ainsi, on est happé par cela et on s'interdit en quelque sorte de s'arrêter vraiment. Et je l'ai vu par exemple sur depuis le début de cette période commencée avec l'annonce de la pandémie. Je l'ai vu par exemple chez les universitaires qui ont traité de la question des droits fondamentaux. Parce que sur le courant du premier semestre 2020, il y a eu beaucoup d'études produites sur la question de l'atteinte aux droits fondamentaux. Il y a eu des tribunes sur cette question-là, des tribunes même d'universitaires ou de juristes. J'en ai fait partie. J'ai co-signé une tribune qui est parue dans Libération, il me semble, au mois d'avril 2020, sur l'urgence des libertés. Mais ce qui est frappant, c'est que passé ce mouvement-là, eh bien, depuis, on a très très peu d'études sur les droits fondamentaux, comme si on était passé à un autre sujet, alors même que les restrictions apportées aux droits non seulement ont continué, mais se sont même sophistiquées, approfondies, jusqu'à l'instauration du pass sanitaire, et que là, eh bien, on ne voit plus grand monde sur ces questions-là. Il n'y a pas beaucoup d'agitation, hormis chez le politique, et aussi bien d'ailleurs chez le citoyen que chez les spécialistes ou les universitaires, parce que voilà, une fois qu'on a parlé d'un sujet, eh bien, on s'épuise et on pense qu'il n'y a pas matière à continuer d'en parler, peut-être parce qu'on n'a pas été habitué à réfléchir de manière continue et approfondie sur un sujet. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, presque tout peut passer. On introduit en effet une technologie dont on peut dire qu'à terme, elle pourrait être dangereuse, mais passé les quelques premiers émois, finalement, on se lasse, on n'y fait plus vraiment attention et c'est exactement là où ça s'installe. Donc, il ne s'agit pas d'être alarmiste, il s'agit de voir comment ça se passe. Hein, je crois que c'est quelque chose de très important pour moi. Je ne me considère ni comme optimiste ni comme alarmiste. J'essaye juste de voir ce qui se passe, parce que voir ce qui se passe, ça préserve de bien des désillusions.
J'avais plusieurs questions sur ces propos là que vous venez de tenir. Une idée sur le traitement de l'algorithme. On a cet exemple récemment avec Facebook et sa gestion d'algorithme. Et on s'est rendu compte apparemment que il y a une très grande probabilité que Facebook puisse influer sur ses algorithmes à son avantage et à ses bénéfices. Est-ce que on peut penser pareil en tant qu'instance dirigeante comme un gouvernement puisse opérer ce même type d'acte ?
Bien, comme je le disais tout à l'heure, en effet, un algorithme, ça n'est pas un deus ex machina, c'est vraiment un produit de l'homme. Bon. Et en ce sens, on peut effectivement avoir peur de la manipulation. Alors peut-être deux choses à ce sujet. Pour ma part, je suis assez réservée en général à l'égard des thèses qui sont fondées sur l'idée justement de manipulation et d'éventuels complots. Je trouve ça assez gênant et surtout, quand je dis c'est gênant, c'est que ça ne me paraît pas en accord justement avec la réalité, parce que souvent on est conduit à faire des choses tout simplement parce qu'on pense que c'est bien ou que c'est la vérité. Ce qui me semble en réalité beaucoup plus problématique que l'hypothèse d'une manipulation. C'est-à-dire qu'au nom des meilleurs motifs, et souvent sous couvert d'une conception du bien commun, eh bien, on est conduit à faire des choses qui, en réalité, nuisent à ce bien commun, même si on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Alors, sur la question, justement, des algorithmes, les données qui y sont rentrées sont des données sélectionnées. C'est-à-dire que dans le flux général des données du monde, hein, il se passe en permanence quelque chose de toute nature, eh bien, on fait des choix. Ces données sont sélectionnées et elles sont souvent aussi formalisées avec des chiffres. Donc, on a déjà deux interventions sur le monde. Quand je dis deux interventions sur le monde, c'est-à-dire que ces données-là, on les prend justement comme des faits bruts. Ce ne sont pas des faits bruts. C'est une sélection qui plus est formalisée souvent avec une forme d'interprétation du monde. Les chiffres sont une forme d'interprétation du monde parce que, comme on le sait, les chiffres dans la nature, ça n'existe pas. C'est une pure invention. Ça nous permet de lire le monde à notre façon, mais ça reste une lecture. Donc déjà, de ces deux points de vue, il y a des biais. et des biais qui ne sont pas nécessairement identifiés par ceux-là même qui sont amenés à rentrer, à sélectionner et à formaliser les données. Il y a des études qui peuvent ponctuellement montrer et essayer de comprendre les biais. Donc les biais ne sont pas nécessairement connus de ceux-là même qui les ont. Et encore moins, parfois, évidemment, de ceux à qui les données sont opposées. Ils ne voient pas nécessairement qu'il y a des biais et ils peuvent prendre les choses comme des faits, réellement. Et puis ensuite, il y a ce qu'on compte faire de ces données. Et donc là aussi, c'est l'homme qui détermine ce qu'il veut de l'algorithme. Hein. Par exemple, il demande à l'algorithme de calculer en temps réel le prix des chambres d'hôtel dans un lieu donné, par exemple, je ne sais pas, Amsterdam, et qui lui demande de faire toujours ressortir le meilleur prix, de telle sorte que les autres vont ensuite être conduits aussi à s'ajuster, selon la politique de l'offre et de la demande. Bon, ça, c'est très connu. Mais voilà donc quelque chose qui n'est pas du tout produit par une extériorité quelconque. C'est quelque chose qui est produit par la main de l'homme et qui peut donner des résultats parfois inattendus, puisque l'algorithme a une vitesse d'analyse et de calcul que n'aura jamais l'homme lui-même, bien sûr, et qui donc peut parfois produire effectivement des résultats inattendus. Mais à partir de là, en effet, alors peut-être je vais, avant de répondre directement à la question sur un gouvernement peut-il manipuler un algorithme de telle sorte qu'il obtiendra alors ou certaines décisions ou certains comportements qu'il estime conformes à ce qu'il souhaite, on peut s'interroger sur la capacité d'un gouvernement à produire des algorithmes dont les biais permettront qu'il obtienne, par exemple, certains comportements. Mais pour cela, il faut quand même rappeler que ça ne sera possible qu'à partir du moment où on aura, et je pense qu'en fait le moment est presque est déjà arrivé, on aura acté de la possibilité de substituer à la décision politique une décision algorithmique. Et je crois qu'on se dirige, alors on n'en est pas encore là, mais peut-être qu'on se dirige par là en commençant à supprimer de la prise de décision toute la phase de réflexion et d'élaboration. Alors je vais revenir sur mon sujet de ce qui s'est passé pendant l'état d'urgence, mais il me semble qu'il y a un fort accent qui est mis de plus en plus sur l'impossibilité de réfléchir et d'élaborer. Au prétexte de quoi ? De l'urgence et de la nécessité. Et donc, l'homme tout seul, j'allais dire sans machine, commence déjà à pouvoir prendre des décisions avec un certain automatisme et sans explication, avec des biais très importants, mais qui sont masqués par l'idée d'urgence et de nécessité, de la même manière que les biais sont masqués par les algorithmes, par la machine algorithmique, qui paraît faire sortir des faits la décision. Bon, est-ce que je peux continuer un peu sur cette idée de droit ou de décision qui sort, qui est dérivé directement du fait. Parce que, alors, je sais que il y a une vraie difficulté aujourd'hui à essayer d'avoir un regard rétrospectif qui, hélas, souvent nous ramène au même type de période, et notamment à la période de l'avant-Seconde Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, que ça nous paraît souvent très excessif de revenir sur cette période-là, et notamment à la période nazie. Mais le credo du droit nazi, c'était, alors qui se formule souvent de manière latine, ex facto jus oritur, c'est-à-dire le droit sort des faits. Et éventuellement, de ce qui paraît aussi certain que les faits, c'est-à-dire la science. Et on sait quels usages de la science ont pu être faits à ce moment-là. Mais le droit sort des faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que précisément, le droit tel qu'élaboré, tel que réfléchi, tel que destiné à corriger ce qui nous semble ne pas aller, ne pas convenir dans la société humaine. C'est pour ça que le droit interdit le meurtre. Le droit interdit, même si c'est d'ailleurs récent, l'inceste. Le droit interdit un certain nombre de choses pour corriger le flux naturel du comportement humain, seul ou en société. Et c'est précisément ce que les penseurs nazis ne souhaitaient pas, corriger ce qui, normalement, dérive de la nature des choses. Et alors, on va vite comprendre. C'est que, en ce sens-là, puisqu'ils considéraient que la race aryenne était naturellement supérieure, ils ne supportaient pas les normes qui visaient à désupérioriser leur race, à considérer tous les êtres humains comme des êtres égaux, etc., etc. Donc, de ce fait, le droit tel qu'élaboré et réfléchi allait contre les faits. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'était restituer la nature des choses et donc subordonner le droit aux choses et aux faits. Bon, on sait ce que ça a donné. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait du fait, justement, qu'il y a aujourd'hui une nette tendance à subordonner, et de plus en plus, le droit au fait. Je prends l'exemple d'une décision du Conseil d'État qui explique, c'est une décision du 6 septembre 2020, qui explique que la situation, enfin je dis qui explique, qui dit que la situation de la pandémie, je cite, impose au pouvoir public de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation d'une épidémie. Donc, la situation de la pandémie impose au pouvoir public. Alors là, on a vraiment une lecture des choses où les faits, en tout cas, ça c'est une autre question dont on pourra peut-être parler, en tout cas les faits tels qu'on les pose, tels qu'on les dit, tels qu'on les interprète, imposent au pouvoir public des décisions. Donc, autrement dit, le droit en période de pandémie est imposé par les faits. C'est la nécessité, c'est l'urgence sanitaire. Est-ce que on peut dire, et ce sera notamment l'objet de ma conférence, que cette situation-là, d'un droit subordonné aux faits, est exclusivement due à cette période de pandémie, et donc on n'a pas à avoir peur de la suite, puisque, on l'espère, la pandémie va se terminer, et ce droit tout à fait particulier avec, ou est-ce que on peut dire que cette situation-là n'est pas tout à fait nouvelle, et où est-ce qu'on peut dire que cette situation-là va, au-delà de la période pandémique, perdurer, hein, conformément à ce que je disais tout au début de cette interview, c'est qu'une fois qu'on met le doigt dans la machine, celle-ci ne s'arrête pratiquement jamais.
Pendant cette présentation, des questions me sont venues. Au-delà donc de ce temps du Covid-19, où l'économie mondiale est en pleine déliquescence, est-ce que la pandémie du Covid-19 n'est pas la forêt qui cache ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire une remise à niveau économique mondial, international, avec ce que ça pourrait comporter de conflits, hein, au sens, à tous les sens du terme, et aussi le réchauffement climatique, qui s'avère aussi un programme très ardu et dont personne n'a le courage de s'attaquer vraiment aussi.
Beaucoup de questions dans ta question. que je vais essayer d'interpréter aussi. À l'analyse, on peut déjà dire quelques petites choses sur ce qui s'est passé pendant la période pandémique, du point de vue de la direction des mesures qui ont été prises un peu partout dans le monde et qui ne font pas beaucoup de doutes. Je vais m'arrêter sur la situation française notamment parce que c'est vrai qu'elle est tout à fait intéressante. On a vu il n'y a pas longtemps plusieurs fois avancer justement les chiffres, quelquefois on s'en sert, relativement aux hôpitaux et aux lits, au nombre de lits dans les hôpitaux, mais aussi des chiffres relatifs, ou plutôt des constats relatifs à ce qui s'est passé aux mesures gouvernementales quant aux structures hospitalières. Bon, on est en période d'état d'urgence sanitaire où il semblerait que ce que j'ai appelé l'instance de l'intégrité corporelle l'emporte sur le reste. C'est à ce titre, en tout cas, que peu ou prou, nous avons globalement accepté. Alors, je sais que nous sommes à 10 et que ce peu ou prou est discutable parce qu'il y a peut-être à 10 plus de représentants de personnes qui contestent tout ce qui se passe que dans d'autres territoires, mais peu ou prou quand même au niveau à l'échelon national, mais même à 10, nous avons accepté des mesures très très restrictives de liberté, des confinements. Limitation de la liberté d'aller et venir, limitation de la liberté de réunion, limitation du secret de la vie privée, explosion en vol du secret médical, limitation de la libre disposition de son corps, etc. Au nom donc de cette instance de l'intégrité corporelle. Et dans le même temps, on peut constater que sur quoi a misé le gouvernement ? Eh bien, pas sur les structures qui permettent notamment d'assurer justement une pérennité ou une amélioration de cette intégrité corporelle, à savoir les hôpitaux. Fermeture des lits, pas de hausse de budget significative, pas de réforme significative du système de santé, de formation, de mise en place de formations supplémentaires pour former donc des personnes supplémentaires à la santé ou au domaine paramédical, non, rien de tout cela. Alors que l'instance de l'intégrité corporelle a été mise en avant comme justification de mesures de mesures assez inédites. Hein. Je pense que pour revenir à ce type de mesures, il faut revenir à la guerre, hein, à la Seconde Guerre mondiale. On n'avait rien eu entre-temps de tel. Au contraire, il y avait eu une sorte de longue marche vers la protection, vers une élévation du niveau de protection des droits et libertés. Donc au nom de l'urgence donc dite sanitaire, on a accepté des choses sans que pendant ce temps-là, le gouvernement mette le paquet, si on ose dire, sur la question de la santé en général, ce qui est tout à fait étonnant. Et c'est d'autant plus étonnant que si on regarde, où a-t-il mis le paquet ? Eh bien, sur l'économie. Et que, finalement, il y a une chronique de Marie Viennot sur France Culture qui date, je crois, de septembre 2020, que j'ai beaucoup aimée, qui était presque caricaturale et qui, malheureusement, en fait, était juste la réalité, où elle égrenait le nom de différentes personnalités qui, à l'issue du premier confinement, de personnalités qui étaient riches avant le premier confinement et qui, à l'issue du premier confinement, étaient devenues encore plus riches du fait des politiques. Alors là, elle citait beaucoup de personnalités américaines. Hein. Il y avait Damien Hirst, il y avait le rappeur Kanye West, plein de gens comme ça, qui étaient plus riches qu'avant. du fait des mesures qui avaient été prises. Bon, évidemment, on ne parle pas des gens qui sont sortis encore plus pauvres qu'avant. Non seulement encore plus pauvres, mais sans espoir qu'un système de santé plus efficient puisse les prendre en charge. Et pour le coup, cette affirmation prend encore plus de sens s'agissant de beaucoup de pays étrangers à la France, même si nous nous dirigeons très tranquillement aussi vers la même situation. Et il ne fait pas de doute non plus que les très grands opérateurs économiques ont été également eux aussi renfloués par la pandémie. C'est ça qui est fou. Alors moi, je dis par la pandémie de Covid-19, je ne devrais pas dire ça, parce qu'en réalité, la pandémie n'y est pour rien. C'est la manière dont nous l'avons gérée qui y est pour quelque chose qui n'est pas du tout pareil. Mais donc, pendant cette période, l'économie a continué son chemin. Un chemin qu'elle avait largement entamé avant, bien avant la pandémie, mais qu'en effet, qui s'est presque mieux dessiné encore, qui s'est même agrandi sous l'effet de la gestion de la pandémie, et qui, alors on ne sait jamais ce qui va se produire, on peut avoir des doutes sur ce qui va se produire, on peut parfois essayer de prophétiser, mais c'est vrai que cette économie-là, sans conteste, produit encore plus d'inégalités qu'auparavant, de très graves inégalités, dont certains prédisent, mais depuis déjà très longtemps, une crise sociale grave qui, de fait, pour l'instant, ne vient pas. C'est quand même aussi quelque chose de très, très important, ça. Il faut vraiment, parce qu'il faut s'interroger. Sur cette crise sociale qui ne vient pas. Est-ce que cette crise sociale qui ne vient pas est le fait, par exemple, seulement de la violence ? C'est important, ça, cette question-là. Parce que quand on ne se révolte pas, est-ce qu'on ne se révolte pas parce qu'on a peur ? On a peur d'être réprimé ? C'est une question que j'aborderai peu, par exemple, lors de la conférence, mais c'est vrai, il y a, par exemple, sur le cas français, il y a des peurs, au sens aller dans une manifestation et en ressortir avec un œil en moins, une main en moins, ça fait peur. Emmener ses enfants à une manifestation est de moins en moins de mise, là où c'était au contraire quelque chose de répandu. Ne pas porter un masque dans certains endroits où c'est obligatoire, eh bien, il y en a qui le font. Mais dans certaines circonstances, et pas tout le temps, parce que tout le monde n'a pas envie de payer 135 euros. Parce que, précisément, beaucoup de gens n'ont pas cet argent-là. Bon, c'est une forme de violence aussi. Alors, est-ce qu'on ne se révolte pas à cause de ça ? Ou est-ce qu'on ne se révolte pas à cause de beaucoup d'autres choses qu'il faudrait évidemment approfondir, sur lesquels il faudrait forcément s'interroger. Mais la réalité est que cette économie qui aggrave les inégalités, ça n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui s'aggrave, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Et depuis une grosse trentaine d'années, on voit beaucoup de prophétisations de la crise sociale. Et elle n'arrive pas. Alors je crois que c'est l'interrogation, à mon avis, la plus fondamentale à avoir aujourd'hui. Parce que si elle n'arrive pas, c'est certainement qu'il y a des raisons. Et je pense que c'est très important d'essayer de réfléchir à ces raisons-là. Alors, peut-être que ce que je dirai pendant ma conférence sera une contribution, une petite contribution à cette réflexion-là.
Je reviens sur l'aspect du réchauffement climatique avec les réactions de beaucoup de populations sur le devenir de la planète et de l'humanité, de la place de l'humanité sur celle-ci. Et justement, il y a énormément de réactions vis-à-vis de ces militants pour une écologie de la planète. surtout d'instances au pouvoir, mais aussi de pensées d'idées qui vont à l'encontre de ce mouvement écologique.
Oui, j'ai pas répondu tout à l'heure sur l'urgence climatique. Alors, je...
Encore un terme d'urgence.
Oui, justement, j'allais rebondir là-dessus, exactement. Parce qu'on n'est pas loin d'être urgence contre urgence. Et quand l'opposition est si frontale, elle est souvent stérile. La question est-il pertinent de constamment réfléchir en termes d'urgence ? Urgence sanitaire, urgence sécuritaire, urgence climatique, je ne suis pas certaine que tout ça soit si différent. Et ça ne va peut-être pas être plaisant ce que je vais dire, et je peux le comprendre. Est-ce que il n'y a pas aussi une forme de réflexion uniquement basée sur les faits dans ce mouvement en faveur de la planète et on va dire contre les politiques publiques qui autorisent à leur manière le saccage de la planète. Donc j'emploie volontairement ces mots pour faire comprendre que évidemment, et de toute façon, il y a peu de combats contre lesquels on peut être. Hein. On ne peut pas être contre l'environnement, c'est impossible. On comprend tous les enjeux. Mais ensuite, il y a une manière de mener ce combat à partir d'une certaine philosophie. Et puis, il y a des moyens mis à la disposition de ce combat. Et encore une fois, je ne suis pas sûre qu'opposer une urgence à une autre urgence soit le meilleur moyen de parvenir à un bon résultat, parce que ça renforce le clivage. À partir de là, il est possible aussi que il y ait dans ce type de combat, aussi intéressant et peut-être louable soit-il, une forme de fuite, une forme de non-pensée sur ce que nous voulons aussi en tant qu'homme. Moi, je suis assez frappée. Et pour le coup, vous voyez, je vais revenir dans ma petite chapelle de juriste. Donc, il y a beaucoup de juristes qui essayent de produire une pensée sur les objets du droit sur le monde, puisque le droit est destiné à vocation à régir, ou plutôt à organiser, plutôt que régir d'ailleurs, nos comportements. Et les juristes ne sont pas si souvent engagés et militants. Or, ce que je constate depuis quelques années, c'est qu'il y a quelques objets sur lesquels les juristes sont particulièrement militants. Et j'en trouverai deux principalement. C'est la question de l'environnement et de la nature. Et une deuxième question, mais qui est en fait une sous-question de la première, celle des animaux. Il y a, par exemple, en matière de droit des animaux, beaucoup de juristes très militants, très, très militants. Et c'est pareil maintenant sur l'environnement. Et pour le coup, je pense que ce n'est pas complètement étranger à un mouvement beaucoup plus général de difficulté à penser l'homme pour lui-même. On parlait des algorithmes tout à l'heure, mais n'est-ce pas la même chose ? Il s'agit de faire en sorte que l'homme apparaisse le moins possible. Dans un algorithme, l'homme n'apparaît pas, alors qu'il est là, hein, mais il n'apparaît pas. Si on pense l'environnement, si on pense les animaux, si on pense leur donner des droits, eh bien, ça permet de ne pas penser à l'homme lui-même. Alors, on peut dire que l'homme doit toujours penser son environnement, il ne fait toujours que penser lui-même ce faisant. Ça, j'entends très, très bien cet argument-là. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit nous intriguer, nous interroger à ce que nous mettions le paquet comme ça, c'est une expression, ça fait deux fois que je la dis aujourd'hui, mais sur des choses qui ne nous concernent pas, nous, spécifiquement, en tant qu'hommes. Alors, parce que, vous voyez, on se retrouve dans une drôle de situation. On a la nature, les animaux. De l'autre côté, on a un virus. On a des algorithmes. Bref, on a beaucoup de choses auxquelles penser, sauf l'homme. Mais qui pense l'homme ? Qui pense sa philosophie ? Qui pense son intériorité ? Qui pense... Alors, c'est étrange quand même. C'est que moi, il me semble que... Alors du coup, pour le coup, l'homme prend un chemin très particulier. Hein. Et il le prend très sûrement. Et il est très concerné. Mais c'est étrange parce qu'on n'en parle pas. Et donc... Je ne vais pas parler sur le fond de ce que fait ou de ce que ne fait pas le gouvernement par rapport à la question environnementale. Non, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ces deux types de discours qui s'opposent et dont je ne suis pas sûre qu'on puisse tirer vraiment quelque chose d'intéressant, y compris pour la planète.
Je voulais revenir aussi sur le propos... Sorti de l'urgence sanitaire, et je demandais justement, j'avais pris cet exemple d'une salle avec un public à l'intérieur. Donc la sortie de l'urgence sanitaire, est-ce que pour moi l'urgence, comme vous l'aviez décrit, la réflexion est quasi absente, le recul aussi. Et le sanitaire, lui, est peut-être un travail de longue haleine, de formation aussi, que ce soit sociétal, hygiénique. Justement, pour moi, est-ce que j'y verrais un oxymore, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Et d'un point de vue d'un pouvoir, d'utiliser ce terme, qu'est-ce que ça peut dénoter ?
Alors, du point de vue... technique, d'abord, je vais préciser que l'état d'urgence sanitaire, c'est une catégorie juridique qui n'existait pas avant qu'elle soit mise en œuvre. Contrairement à l'état d'urgence qui n'a pas de qualification, hein, quand, après les attentats terroristes de 2015, il n'y a pas, on a mis en œuvre l'état d'urgence, un état d'urgence qui existait dans la loi. Cet état d'urgence, on l'a connu aussi dans d'autres situations, en 62, avec la guerre d'Algérie. On l'a connu aussi en 2005 avec les émeutes urbaines, où on l'a connu encore en Nouvelle-Calédonie. Bon. Cet état d'urgence sanitaire a été créé exprès au mois de mars 2020 pour entrer dans une nouvelle période d'organisation du droit et des pouvoirs. Cette qualification de sanitaire est venue presque immédiatement, spontanément, puisqu'il s'agissait de gérer un problème de santé publique. Donc forcément, santé publique, sanitaire, c'était logique. Ce qui, moi, m'a beaucoup intéressée à l'époque, et alors j'en profite pour faire un peu de publicité pour mon site internet, qui s'appelle Le Droit de la Fontaine. Vous tapez www.ledroitdelafontaine.fr et vous trouverez, notamment en cliquant sur les brèves, quelques petits textes que j'ai faits au cours du premier semestre de l'année 2020. Et j'ai été surprise de cette faculté que nous avons tous eue, ou presque tous. J'ai tendance souvent à parler de nous, c'est-à-dire à faire une globalité, mais parce que elle autorise des exceptions toujours. Donc nous avons presque tous été accoutumés en quelques courtes semaines à un nouveau type de vocabulaire. L'état d'urgence sanitaire est devenu en quelque sorte un lieu commun en quelques jours, là où il n'existait pas auparavant. Le monde d'avant, le monde d'après sont devenus deux expressions courantes, la distanciation sociale, etc. Et puis le fameux présentiel distanciel dont nous avons déjà parlé ensemble sur ces ondes. Et dont d'ailleurs l'interview figure aussi sur mon site internet. Bref, j'avais en tout cas noté que il y avait un sondage qui avait été fait en 2014 dans les colonnes du journal Le Parisien et qui montrait que l'une des premières choses que mettaient en avant les personnes, quand elles étaient interrogées, c'était la question de la santé. Quelle est la chose qui vous paraît la plus importante dans la vie ? Et c'est vrai, quotidiennement, dans nos relations quotidiennes, qu'est-ce qu'on entend ? Le plus important, c'est la santé. Tant que la santé va, tout va. Bon, ce qui est évidemment un énorme mensonge. C'est-à-dire que non, ça n'est pas parce que la santé va que tout va. Ce n'est absolument pas vrai. Nombre de personnes vont très bien physiquement, mais ne vont pas du tout bien en réalité. Donc, c'est sur la base d'un mensonge que nous nous faisons à nous-mêmes, mais que nous mettons en avant. Donc, je parlais tout à l'heure de cette instance de l'intégrité corporelle. Donc, il s'est distillé ainsi dans l'esprit social, même si, encore une fois, je pense que c'est un mensonge que nous nous faisons. Eh bien, il a été très facile pour le gouvernement d'imposer cet état d'urgence sanitaire, puisqu'il était dans l'air du temps, en fait. Il était dans l'air du temps. Et donc, je crois qu'il ne faut pas être surpris de sa très grande réussite. Et alors, pour le coup, puisqu'on parle de sortie, qu'est-ce que ça signifie la sortie de l'état d'urgence sanitaire ? Alors, de prime abord, immédiatement, on pense que cette sortie-là, elle va être le fait de faiblesse ou de la disparition de la pandémie. Ça n'est pas si sûr, pour le coup, parce que là, encore une fois, on a commencé quelque chose, eh bien, ça ne s'arrête pas aussi facilement. Surtout lorsqu'il s'agit de choses qui ne nous font pas du bien, eh bien, la première loi, le premier projet de texte organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire en France était une loi qui déclarait qu'on allait ne plus être juridiquement dans un régime d'état d'urgence, mais qui faisait basculer tous les pouvoirs exceptionnels et toutes les mesures exceptionnelles prises pendant l'état d'urgence dans le droit ordinaire. C'est-à-dire que c'est comme si, pour reprendre l'image de la salle, c'est comme si, pour faire évacuer une salle, on orientait en fait les gens dans une autre salle. Ils sont effectivement sortis de la salle, mais en fait ils sont dans une autre salle, exactement dans les mêmes conditions, mais ça n'a plus le même nom. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Ça n'a plus le même nom, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on sort sans sortir.
Laureline Fontaine, l'émission touche à sa fin. Et donc, je rappelle aux auditeurs cette conférence que vous donnerez samedi 6 novembre à 19h à la salle communautaire de l'ESCDD et à 10. Donc, et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée.
Eh bien, bonne soirée aussi et à très bientôt. Merci Yves.
Au revoir. Song.